Salut tout le monde, comment ça va? Très heureuse d'être ici, nous sommes réunis pour la 32e fois maintenant, avec vous et avec Nathan, qui est prêt, assis, installé, bien calé même dans son fauteuil.
Calé, t'as raison, on peut le dire comme ça, le fauteuil est confortable, on a eu raison de le changer, ça va mieux. Et oui, bah bonjour, c'est l'épisode 32 et que le temps passe vite, oulala.
Ouais, c'est bon signe. Quand même, ça prouve peut-être quelque chose.
Comme quoi ?
Bah, qu'on aime ce qu'on fait, tout simplement.
C'est vrai. Et qu'on ne voit donc pas le temps passer. C'est une bonne analyse. Quoi de neuf cette semaine, Violaine ? Comment tu te sens ?
Un peu fatiguée, je dois te l'avouer. Là, depuis le week-end dernier, un peu fatiguée, ouais.
Toi aussi ? Honnêtement, moi, je suis mort. On a passé le week-end, le samedi et le dimanche, à peindre. Et on avait des murs à peindre dans notre appart, Violaine. Et je ne trouve pas que ce soit compliqué de peindre, mais qu'est-ce que c'est fatigant. J'étais épuisé et je le suis encore. Je ne sais pas toi, mais j'ai comme des courbatures, des douleurs musculaires au niveau des bras, du haut des jambes aussi, des cuisses. C'est simple, en fait, j'ai un peu mal partout.
Ouais, tout simplement, moi aussi. C'est assez physique hein, quand même de peindre. On a pas mal souffert. Franchement, c'était dur. Mais petite fierté d'avoir fini.
Ouais, d'avoir fini ou presque, quasi. Il faut garder des forces, Violaine, garder de l'énergie parce qu'il nous reste quand même, quand tu y penses, hein, la chambre à faire et la pièce qui fait office de bureau dans notre appart, qui sert de bureau. Donc voilà, encore un peu de boulot, mais ça va le faire.
Ouais, mais d'ailleurs, là, cette pièce dont tu parles, c'est la pièce dans laquelle on se trouve là tout de suite et dans laquelle on enregistre cet épisode. Et quand je la regarde, là, quand j'observe autour de moi, à ma droite notamment, elle a comme un léger besoin d'être rafraîchie, non ? D'être peinte.
Ouais. Il faut qu'on s'y mette, il faut la repeindre, hein. Mais peut-être pas ce week-end, hein. Pas celui-là qui arrive, s'il te plaît. On va se reposer ce week-end et ça tombe bien avec le sujet d'aujourd'hui. Pourquoi pas aller au ciné, tiens, qu'est-ce que t'en penses ?
Bah, j'en pense que c'est une bonne idée et justement, tu sais qu'il y a un film que tu dois absolument voir. En tout cas, je te le recommande à 100%. Moi, je suis allée le voir au ciné il y a 3 semaines.
Je sais bien.
Tu le sais, c'est un film français et je l'ai juste adoré.
Je sais, je me souviens quand tu y es allé, et c'est ma faute, je dois te l'avouer, j'avais un peu la flemme moi de venir, tu sais pourquoi.
Ouais, parce qu'il est long, c'est ça ?
Ouais, ça dure 2h30, 2h30 en tout je crois, et j'avais pas le courage. C'est toujours un peu difficile pour moi de passer 2h30 assis dans un ciné, de suivre un film sans pause. Malheureusement, c'est un peu triste de le dire ainsi, mais c'est aussi un peu notre génération qui veut ça. On n'est plus, je trouve qu'on n'est plus vraiment habitué à ça.
Ouais, non, je suis d'accord, mais là, franchement, ça vaut le coup, je t'assure.
Ok, tu peux peut-être nous dire pourquoi et surtout comment il s'appelle. Et pourquoi pas essaye de nous convaincre, de nous le vendre un peu, ce film.
Ça te dit, on fait ça à la fin de l'épisode plus tôt ? Je préfère parce qu'en fait, je suis désolée Nathan, mais ce film, c'est ma reco culturelle pour aujourd'hui.
Ça marche, aucun souci, on garde ça pour la fin, donc rendez-vous dans quoi ? Dans une vingtaine de minutes, une trentaine de minutes, plus ou moins, à peu près. J'ai hâte, en tout cas, de connaître un petit peu cette histoire que tu nous la racontes et je sens que tu vas me motiver, hein ?
J'espère.
Et du coup, passons directement à notre thème du jour qui a clairement un lien parce qu'on va parler aujourd'hui de ciné, de cinéma, ou plutôt de ce que traverse cette période, cette tempête que traverse en ce moment le cinéma français.
Ouais, il y a un souffle nouveau, ou je dirais même un vent nouveau, qui souffle sur le 7e art chez nous en France.
On l'appelle le 7e art, voilà un synonyme. Le cinéma, c'est le 7e art.
Ouais, Nathan, juste pour le rappeler peut-être aux gens qui nous écoutent et qui ne le savent pas, mais en France, depuis le phénomène MeToo, il y a une parole, un discours féministe qui se libère, et ça concerne plein de domaines différents. Par exemple, on a vu ces derniers temps dans les médias des femmes révéler qu'elles avaient été discriminées, agressées sexuellement ou même pire hein, encore, qu'elles avaient été violées dans le passé par des hommes connus et puissants.
Et je pense notamment à un très célèbre présentateur télé dont je ne dirai pas le nom, dont je tairai le nom, mais qui est accusé par de nombreuses femmes pour des faits similaires. Cet homme, c'était le roi du 20h en France. Quand j'étais, moi, enfant, quand tu l'étais aussi, je crois, Violaine, il présentait à l'époque le journal télé, les infos, le soir à 20h, quoi.
Ouais. Donc, il y a le monde des médias, mais il y a d'autres domaines, plein de secteurs de la société française. Et parmi eux, on retrouve le cinéma. J'ai l'impression que c'est peut-être le secteur qui a été le plus touché, le plus frappé, le plus impacté par toutes ces révélations.
Ouais, je suis assez d'accord avec toi, surtout depuis 5 ou 6 ans. Je dirais 2018-2019, on observe que de nombreuses actrices françaises se lèvent pour demander, pour exiger une plus grande égalité de traitement, pour qu'elles soient traitées, en fait, pour qu'elles soient considérées de manière égale aux hommes. Donc, à tout point de vue, c'est-à-dire dans la représentation, dans les films, les salaires, évidemment, tout ce qui est sexisme ordinaire, le sexisme en fait du quotidien, hein, dont elles sont parfois victimes. Mais surtout, moi, je trouve ce qu'on remarque d'assez nouveau depuis quelques années dans le ciné, chez nous, hein, en France, ailleurs aussi, hein, à l'étranger, dans d'autres pays, mais chez nous, en France, c'est ce combat qui est mené. Alors, je ne sais pas si c'est majoritaire ou pas, on va voir, on va en discuter ensemble, Violaine. Mais ce combat pour dénoncer des abus dont ces femmes ont été victimes ou dont elles sont encore victimes aujourd'hui, quoi, au présent.
Ouais, mais attention, Nathan, parce qu'on ne parle pas que des actrices. Alors oui, elles sont en première ligne, ce sont les plus visibles, mais en fait, ça concerne tout un métier, l'ensemble d'une profession, même les métiers qui restent dans l'ombre, hein, donc qui ne sont pas forcément dans la lumière. Je sais pas, là, je pense aux décoratrices, aux personnes qui travaillent dans le montage d'un film, par exemple, sans oublier, bien sûr, les réalisatrices, les productrices. Donc voilà, vraiment tout ce corps de métier, quoi.
Ouais, t'as raison, c'est vraiment tout un milieu qui est chamboulé, qui est perturbé et qui essaye de faire le ménage, nettoyer, mais au sens figuré, rendre ce milieu plus propre. Donc c'est faire une sorte de révolution peut-être dans ses rangs, dans ses membres, voilà, une mini-révolution. C'est un terme qu'on utilise aussi dans ce contexte, donc pourquoi pas, une mini-révolution dans le ciné français.
Ouais, c'est pourquoi aujourd'hui on se pose cette question, on s'interroge. Est-ce que c'est la fin de l'omerta dans le cinéma français ? L'omerta, vous savez, c'est ce silence, cette loi du silence qui pèse et qui existe parfois.
Ouais, ça vient de l'italien ça vient aussi de l'île de Sicile, cette jolie île en Italie. Et donc l'omerta, ça vient du vocabulaire de la mafia. C'est un mot qui est entré dans notre vocabulaire en français, l'omerta.
Et donc Nathan, est-ce qu'on va faire ce ménage dont tu viens de parler dans le cinéma français pour ensuite tourner la page ?
On verra, est-ce que c'est seulement le début ? Est-ce qu'on va vraiment aller au bout des choses ?
Et est-ce que tout le monde est réellement d'accord avec ça, dans ce milieu qui peut paraître, qui peut sembler parfois un peu fermé ? Ou est-ce qu'au contraire, il n'y a pas encore des freins, des barrières dans ce combat pour l'égalité ?
Écoute, let's go ! Et puis, restez avec nous jusqu'à la fin. On aura la reco culturelle de Violaine, de toi,
la
Violaine,
fameuse.
La fameuse. Et rien que pour ça, il ne faut pas se quitter trop tôt. Mais d'abord, pour répondre à notre question, est-ce la fin de l'omerta dans le ciné français ? J'ai quand même envie de préciser que si on parle d'omerta, c'est que pendant des années, pendant des décennies, c'était le silence absolu qui régnait. C'est-à-dire que pendant super longtemps, et ça on le sait que depuis peu, on a eu des actrices plus ou moins connues qui ont été agressées sexuellement. Certaines ont été violées, d'autres ont subi des attouchements.
Et ouais, ce qui rajoute encore à la tristesse ou à la déprime, au choc, c'est que souvent, en fait, on a vu qu'elles étaient toutes jeunes, que ces faits se sont produits quand elles étaient enfants. Donc, on parle même pas de femmes, c'était encore des jeunes filles. Alors, je sais pas si tu voulais la citer, mais dernièrement, là, c'est tout frais. On a une actrice française qui s'appelle Judith Godrèche. À mon avis, elle a quoi ? Je dirais qu'elle a une cinquantaine d'années aujourd'hui.
Ouais, ça doit être ça, ouais.
Bah, cette femme, en fait, un jour, alors c'était il y a pas longtemps, elle a pris son courage à deux mains. C'est-à-dire, bon, elle a longuement hésité, hein, certainement, mais elle a fait cet effort immense de parler et de témoigner enfin. Et cette femme, donc Judith Godrèche, elle accuse un réalisateur français avec qui elle a tourné un film, avec qui elle a fait un film, et bien de l'avoir violée quand elle avait 15 ans seulement.
Ouais, c'était pendant le tournage d'un film, hein, c'est bien ça?
Ouais, c'était sur le tournage d'un film. Bon, bah donc là, on est dans les années 80, fin des années 80, et ça s'arrête pas là, c'est pas tout. Judith Godrèche, elle accuse un autre réalisateur, donc le réalisateur, c'est celui hein, qui fait les films, eh bien, d'avoir couché avec elle, d'avoir eu une relation sexuelle avec elle, alors qu'elle n'avait que 16 ans.
Ouais, elle n'avait que 16 ans et lui quasiment 40 ans, je crois. Ils ont même eu une relation ensemble, ils vivaient ensemble. Ils ont vécu, si je peux dire, une relation sous le même toit. Mais voilà, avec 23 ans d'écart entre les deux. Mais surtout, le problème, en fait, c'est qu'elle était mineure. C'était, elle, encore une enfant, une adolescente, une ado. Donc, on peut s'interroger, hein. On peut se demander où est l'accord, où est le consentement quand on a à peine 16 ans.
Ouais, à cet âge, est-ce qu'on est vraiment consentant ou consentante? J'en doute fortement, hein, je crois pas. Je crois qu'on parle plutôt d'emprise. Et là, récemment, bah, Judith Godrèche, en fait, elle vient de nous faire un super discours, donc très fort, très émouvant, très puissant.
Ouais, tu nous rappelles où c'était, où ça se passait, ça?
Ouais, au César, à la cérémonie des Césars.
Donc les Césars, c'est la cérémonie qui récompense en France bah, les meilleurs films, les meilleurs docus, les documentaires, la musique, les acteurs, les actrices, tout ça. Donc c'est vraiment le rendez-vous annuel quoi du ciné français. C'est un peu comme bah, comme les Golden Globes aux États-Unis, les Ours d'Or, les Goya.
Ouais, c'est ça. Et les Césars, donc c'est tous les ans en février. Donc Judith Godrèche, elle a pris la parole là au César. Elle s'est adressée donc aux professionnels du cinéma français. Elle les a regardés hein, dans les yeux et elle leur a dit notamment une phrase qui a beaucoup marqué. Elle leur a sorti "Je parle, mais je ne vous entends pas."
Ouais, on a senti sa tristesse, je trouve, sa peine dans son regard, dans sa voix. Mais surtout, moi, ce que j'ai ressenti, c'est chez elle, c'est sa colère qui était bien visible, tu vois.
Et c'est là où en fait on parle d'omerta, c'est que beaucoup de ces femmes parlent, elles témoignent. Il y a beaucoup de témoignages comme celui de l'actrice Judith Godrèche. Franchement, la liste elle est longue, il y en a de plus en plus. C'est pas la première malheureusement et ce sera pas la dernière. Mais le problème c'est que le soutien qu'elles reçoivent, il est encore faible, il est encore un peu timide. C'est ce qu'elle dit en fait, c'est qu'on a sentiment en fait par moment que ces actrices, elles sont un peu seules, laissées seules.
Ouais, après, personnellement, moi, je trouve que son discours a quand même été applaudi. Il a été très applaudi par la salle, hein, par les gens présents dans la salle. Et j'ai cette sensation, moi, qu'il y a eu une prise de conscience, ou du moins un début de prise de conscience. Et il y a un acteur que j'aime bien, un homme. Bon, après, c'est aussi la nouvelle génération hein, qui arrive dans le ciné français, mais qui a dit, à la fin de la cérémonie, une chose importante, il a dit, Oh, on espère que les choses vont bouger, on espère que les choses vont changer, enfin que les gens vont oser prendre la parole et qu'on va en finir avec ce silence.
Ouais, je vois de qui tu parles. Alors lui, hein, il est tout jeune, comme t'as dit, il arrive tout juste dans ce milieu. Mais tu vois, moi, je suis pas trop d'accord. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens dans le ciné qui se taisent, qui disent rien, ou pas assez de ce qu'ils savent, peut-être, ou pas. Je sais pas pourquoi, mais il y a des gens qui ferment les yeux. Alors probablement parce qu'ils sont amis. Tout simplement. Donc voilà, au prétexte qu'ils font partie de la même famille, la fameuse famille du ciné français, ils se soutiennent entre eux.
Ouais, c'est vrai que cette famille du cinéma français, comme tu dis, on l'accuse parfois un peu d'être dans l'entre-soi. L'entre-soi, ça veut dire de rester entre eux, de se soutenir, bah, qu'importe le sujet, qu'importe les critiques ou les accusations contre elle. Et ce qui explique par moment qu'il préfère faire profil bas, comme on dit, donc rester à l'écart, tu vois, rester un peu loin, discret. Et quand il y a un tremblement de terre, on préfère se cacher, regarder les choses avec une certaine distance. Après, il y a une chose qui est délicate, je trouve, Violaine, et qu'il faut prendre en compte aussi, en tout cas, selon moi, c'est mon avis, et je dis ça aussi parce que j'ai fait du droit et c'est mes souvenirs de ma licence de droit qui reviennent, mais dans la plupart des cas, dans ces accusations, souvent, il n'y a pas de procès, ou il n'y a pas eu de procès, ou quand il y en a eu un en France, dans la quasi-totalité des cas, l'acteur ou le réalisateur ou la personne qui est accusée, elle a été acquittée, elle a été innocentée, elle a été blanchie, cette personne-là. Voilà un autre synonyme. Être blanchi, c'est être acquitté. Et il y a quelques exemples comme celui-ci, mais je peux t'en donner un. Le cas, par exemple, Luc Besson. Je pense que nos auditeurs le connaissent. Hein. Certainement, il a réalisé plein de films qui ont super bien marché, comme par exemple Le Grand Bleu. Je ne sais pas si tu as vu dans les années 80, Violaine.
Bien sûr, bien sûr. Ouais. Film culte. Puis il y a aussi Le Cinquième Élément qu'il a réalisé. Là, je crois que c'est plutôt à la fin des années 90.
Ouais, c'est toute notre enfance, Le Cinquième Élément. C'est peut-être l'un des films que j'ai vu en premier. Donc, Luc Besson, le réalisateur, il a été accusé de viol il y a quelques années, mais récemment, la justice française a finalement rejeté les accusations. Il a été blanchi. Alors, il faudrait voir les raisons, mais la notion de présomption d'innocence est tellement importante en France, dans le droit français. C'est ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est fondamental chez nous en France. On dit souvent « toute personne est présumée innocente jusqu'à ce qu'elle soit condamnée ». Et c'est la loi en France qui est comme ça. Donc, comme il y a eu très peu de condamnations au final, peut-être que ça explique le fait que finalement beaucoup de gens restent prudents, soient prudents, ils ne veulent pas prendre de risques, ils ne veulent pas trop s'avancer, ils ne veulent pas dire le mot de trop, tu vois, si finalement, si en fin de compte, la personne, elle est innocentée. Tu vois ce que je veux dire ?
Alors, je vois ce que tu veux dire, mais je vais te répondre avec une question. Pourquoi en fait ces gens ils sont pas condamnés? Parce que tu vois, est-ce que ça veut forcément dire qu'ils sont innocents? Moi non, enfin je suis pas persuadée. À mon avis, c'est aussi parce que c'est difficile d'avoir des preuves, de prouver ce genre de faits. Et en général, les faits, ils remontent dans la majorité des cas. C'était il y a longtemps, il y a très longtemps. Et surtout, on est face à des témoignages, pas à des preuves, comme je disais. C'est parole contre parole. Donc, je crois aussi que ça concerne pas que le cinéma, hein, malheureusement, pas que ce monde. Faut en sortir et voir plus grand. Mais il faut le dire, en France, la justice française est lente.
Ouais, c'est vrai, c'est un constat, ça. La justice est lente.
Et elle est en retard sur toutes ces questions, sur ces problématiques liées au viol, aux agressions sexuelles. Franchement, aujourd'hui en France, les condamnations pour viol, elles sont rarissimes. Le pourcentage de condamnations dans ces affaires, il est extrêmement bas. Je parle pas que du cinéma, encore une fois, ça c'est dans toute la population. Donc, on peut croire après ça, on peut avoir ce sentiment-là que la femme, elle n'est pas écoutée, que la femme, elle n'est pas crue, ou en tout cas pas suffisamment.
Ouais, pas suffisamment crue, mais regarde, même si tu te limites juste au monde du cinéma français, c'est impressionnant le nombre d'acteurs qui ont été mis en cause, qui ont été accusés ces derniers temps. Il y en a des dizaines et qui n'ont pas été, au bout du compte, condamnés. Et puis, Violaine, il y a aussi un autre élément. Et c'est le problème, c'est que souvent, ces faits, ils sont prescrits. Il y a la prescription. Ça veut dire qu'au bout d'un certain temps, passé un certain temps, un certain délai après les faits, on ne peut plus porter plainte. Malheureusement, on ne peut plus demander réparation. C'est ça, la prescription.
Mmh. Et si j'ai bien suivi, c'est ce qui se passe d'ailleurs dans le cas de Judith Godrèche, l'actrice française dont on a parlé. C'est que les faits de viol dont elle parle, ça remonte. C'était il y a plus de 30 ans. Et on ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, elle ne peut plus aller en justice. Elle n'a plus le droit. Et ça, c'est affreux, c'est terrible.
Ouais, c'est terrible, malheureusement. Mais en tout cas, pour revenir à cette notion de présomption d'innocence, hein, j'y tiens aussi, c'est important. Je suis sûr que, par exemple, aux États-Unis notamment, peut-être que je me trompe, hein, mais quelqu'un qui serait accusé comme ça, de cette manière, je pense que certainement il serait blacklisté ou il serait cancellé immédiatement. Alors désolé pour ces anglicismes, hein, mais ces termes, on les utilise, nous les Français, à l'oral, donc c'est bon à savoir, évidemment.
Mmh, évidemment, blacklisté, cancellé, en bon français, on pourrait dire quoi ? Être exclu, être expulsé ?
Ouais.
Ouais, mais c'est moins fort.
Non.
Ouais, on le dit pas trop.
Non, on le dit pas trop. Bref, tout ça pour dire que oui, en France, je sais que beaucoup de gens attendent que le jugement sorte, que le jugement soit prononcé pour ensuite donner son avis, pour dire ce qu'on pense de quelqu'un, de son comportement, de ce qu'il a fait ou pas. Enfin, il y a un vrai débat, hein, sur ça, c'est pas unanime. Il y a deux écoles, on peut dire, il y a deux visions qui s'affrontent. Et moi, je t'avoue, Violaine, que je suis assez partagé. Je ne sais pas trop quoi en penser, parce que, oui, d'un côté, évidemment, je suis conscient et je suis évidemment pour qu'on libère cette parole féministe. Il faut briser le silence, aller plus vite, aller plus loin. Mais de l'autre côté, il faut aussi respecter la justice, sa valeur, le symbole de la justice. Et à mon avis, il y a beaucoup d'acteurs qui sont dans cette logique-là, d'où leur silence. Et c'est pour ça qu'on voit clairement qu'ils sont mal à l'aise, tu vois, ces acteurs, ces hommes dans le ciné. Tu vois, ils ressentent une gêne, ils sont gênés, ils préfèrent parler peut-être d'autre chose, tu vois, dans les interviews. Donc voilà, selon moi, c'est un vrai équilibre à trouver. Et c'est pas simple, c'est pas si simple.
Ouais, c'est vrai que pendant les interviews, ils préfèrent botter en touche, comme on dit, donc ouais. Répondre à côté de la question. Non, c'est sûr, ce que tu dis, c'est pas simple, parce que c'est vrai que c'est pas parce qu'ils ouvrent pas leur bouche qu'ils sont complices ou qu'ils veulent pas ouvrir les yeux sur ces questions. Quoique, franchement, ça se discute là encore, je trouve, parce que cette retenue, cette hyper prudence chez certains acteurs, et quelle que soit la génération hein, d'ailleurs, ou même le sexe, ça concerne aussi des jeunes, des actrices, bah franchement, ce silence. Ou, tu sais, ce soutien pour les victimes, mais juste à demi-mot, à moitié, tu vois, du bout des lèvres, moi, ça m'agace et ça m'énerve.
Pourquoi ? C'est hypocrite, c'est ça ?
Ouais, alors hypocrite, léger, quoi. Ça paraît même fake, un peu faux.
Ouais, on va dire que c'est le strict minimum, quoi. Il y a un manque de sincérité, peut-être, chez certains, ouais, chez certains d'entre eux.
Après, Nathan, on peut pas dire le contraire. C'est un vrai premier pas, tout ce qui se passe dans le ciné français, là, depuis quelques temps. On peut pas non plus dire que rien n'a changé.
C'est vrai.
Et tiens, j'ai une preuve, d'ailleurs. Je sais pas si t'as entendu parler de ça, mais il y a quelque chose qui a été mis en place, ou alors qui est sur le point d'être mis en place. J'ai un doute, je sais plus vraiment. Mais bon, peu importe. En fait, c'est l'arrivée d'un nouveau métier dans le cinéma français, si on peut dire ça comme ça. Ils en ont parlé au César, tu t'en souviens ?
Oui, ce fameux coordinateur sexuel, hein, c'est bien ça.
C'est ça.
Ouais. C'est un poste qui a déjà été créé, hein, voilà. Il y a peu de temps, mais c'est plutôt récent, mais il est déjà créé. Ils vont le mettre en place, là, je pense.
Et ça nous vient des États-Unis. Mais en tout cas, ils veulent que ce coordinateur ou alors cette coordinatrice soit présent ou présente partout. En fait, que ce soit généralisé sur tous les tournages de films, qu'importe le film.
Mais alors, c'est quoi un coordinateur sexuel concrètement, tu vois ? Qu'est-ce qu'il fait ?
En deux mots, si j'ai bien compris, alors c'est quelqu'un qui vient pendant le tournage d'un film et qui va vérifier que toutes les scènes intimes, toutes les scènes de sexe, toutes les scènes de nu soient vraiment consenties, quoi.
Ok. Ouais, c'est pour s'assurer qu'il y ait vraiment une discussion, qu'il y ait cet accord mutuel réciproque, hein, et que tout le monde, en fait, dise vraiment oui avant de tourner une scène. C'est nécessaire, oui, et en même temps... ça me paraît fou, ça me paraît juste fou, ça me semble aberrant d'imaginer que c'était pas le cas avant. Je suis, certainement naïf, mais je pensais qu'il y avait forcément consentement, quoi. Mais visiblement, non, quoi. Pas
bah,
du tout.
Ouais, on a remarqué que non, hein, parce qu'il y a beaucoup de témoignages ouais, qui montrent qu'en fait, parfois, c'est le réalisateur ou l'acteur qui décide et qui impose quelque chose au moment où il faut faire une scène de sexe dans un film.
C'est juste, ouais, c'est juste dingue. Donc, le coordinateur sexuel est essentiel dans ces moments-là. Ça, c'est plutôt une bonne mesure qui montre qu'on avance. Et je ne sais pas si tu as vu ça, parce que c'est vraiment très, très frais, hein, mais il y a un hashtag, un nouvel hashtag qui vient de sortir, MeToo Garçon, hashtag MeToo Garçon en France. Et en fait, depuis les propos de Judith Godrèche au César, bah, y a pas mal d'acteurs français, donc des hommes, qui révèlent qu'eux aussi, ils ont été victimes d'abus, d'abus sexuels. On les a... touchés quand ils étaient jeunes, quand ils étaient enfants.
Quand ils étaient des petits garçons. Ouais. J'ai vu passer cette info là ce matin. Je crois que c'est un jeune acteur qui dit qu'il a été violé par son agent, donc la personne qui s'occupe de sa carrière, quand il avait entre 11 et 15 ans. Sordide, tout simplement.
Ah oui, sordide, horrible. Et c'est tellement malsain parce qu'il ajoute dans cette interview que j'ai lue, enfin, ou que j'ai entendue, je ne sais plus, que des gens du milieu du cinéma français ont essayé bah, de le droguer quand il était gosse. Un enfant, mon Dieu, quoi. Mmh. Voilà, toutes ces révélations tombent au compte-gouttes, ce qui veut dire petit à petit, régulièrement, presque quotidiennement, on a l'impression. Donc là encore, hein, ce n'est que le début, j'imagine, peut-être le début de cette mini-révolution dans le cinéma français que beaucoup attendent et espèrent aussi.
Ouais, mini ou grande, mais en tout cas, ça y ressemble. Je sais pas si tu vois, on peut dire que c'est la fin de l'omerta, du silence, pour reprendre notre titre, mais en tout cas on peut imaginer que c'est la fin de l'impunité. En tout cas, ça m'étonnerait franchement qu'on revienne en arrière. Maintenant, on avance et bah, en espérant que ça serve, que tout ça fasse avancer concrètement les choses. Et surtout, j'insiste que les victimes puissent s'exprimer sans avoir peur de perdre des contrats, d'être rayées des listes, des castings.
Ouais,
voilà, quoi.
Par exemple, quoi. Qu'elles puissent parler librement, s'exprimer librement et qu'on puisse enfin tourner cette page pour après, plus tard, en réécrire une nouvelle, une page plus saine, une page plus jolie, plus belle, parce que, Violaine, je trouve que le cinéma français, quand même, le mérite. Je pense qu'il vaut la peine d'être connu, il vaut la peine d'être vécu pour ce qu'il est vraiment, quoi. Les films, aller dans les salles voir des films, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Ouais, on est d'accord. En dehors de tout ça, le cinéma français vaut le coup.
Ouais, c'est sûr. On fera d'ailleurs des épisodes hein, où on parlera vraiment des films du ciné français en tant que tel. Tiens, en tant que tel, qui veut dire indépendamment de tout ça.
Ouais, à proprement dit, quoi.
Ouais, un peu compliqué, ça, à expliquer. Et je crois que vous aurez besoin de la transcription pour voir comment ça s'écrit. C'est toujours utile, donc vous le savez, la transcription, elle est à télécharger sur notre site frenchwithspanache.com pour info.
En plus, elle est bien détaillée, j'y passe du temps, et surtout, elle est gratuite.
C'est ça, c'est bien vrai. Voilà, écoute, on peut passer peut-être à la reco.
Allez.
Donc, comme on l'a teasé tout à l'heure, comme on l'a annoncé dans l'intro, toi, Violaine, tu as vu un film qui t'a marqué récemment. Lequel c'est ? Dis-nous tout.
Eh bien, c'est Anatomie d'une chute. Voilà le nom peut-être que vous avez entendu parler de ce film français, donc réalisé par une femme incroyable qui s'appelle Justine Triet. Si je dis que vous en avez peut-être entendu parler, c'est parce que bah, c'est simple. Elle a tout raflé, elle a tout gagné. Je ne vais pas donner toutes les récompenses, non ?
Non, peut-être pas toutes, parce que je crois qu'il y en a vraiment une trentaine, mais peut-être que tu peux nous parler des plus importantes.
Bah d'abord, la Palme d'Or au Festival de Cannes l'année dernière.
Rien que ça.
Rien que ça. Elle a gagné 5 ou 6 prix au César, là, en France. Je crois qu'elle a gagné au Goya, donc ça, c'est la cérémonie en Espagne. Au BAFTA également.
Ça, c'est en Angleterre, les BAFTA.
Le Golden Globe du meilleur film étranger. Et puis c'est pas fini parce que elle est nommée aux Oscars.
Oui, les Oscars, ça c'est the récompense, comme on peut dire en français aussi.
La récompense suprême, ouais, mais quand on enregistre, la cérémonie n'est pas encore passée, donc on verra bien, c'est le 11 mars prochain.
Mmh. Toi, est-ce que tu vois, Violaine, est-ce que tu comprends pourquoi ce film marche aussi bien ?
Complètement. Comme je l'ai dit, moi je l'ai adoré. L'histoire, l'intrigue est top. Les acteurs, franchement, c'est le point fort du film, ils sont géniaux, notamment l'actrice principale, une femme encore. Elle est spectaculaire, elle a beaucoup, beaucoup de talent.
D'ailleurs, si je ne me trompe pas, cette actrice, elle est allemande dans la vie, non ?
C'est ça, elle s'appelle Sandra Hüller. Je ne sais pas du tout si elle est connue en Allemagne.
Et je ne sais pas du tout si ça se prononce aussi comme ça.
Désolé.
Mais peut-être que nos auditeurs germanophones, nos amis qui habitent en Allemagne notamment, peuvent nous le dire si elle est connue ou pas.
Ouais, pour ma part, j'en avais jamais entendu parler. Là, c'était la première fois que je voyais un film avec elle.
Voilà, donc elle a été récompensée pour ce film. Et au fait, ce film, bah, ça parle de quoi ? Alors, Violaine, attention, pas de spoil, hein. On ne spoile pas. J'ai un peu honte avec les anglicismes que j'utilise, mais c'est le français de France. Pardon, c'est comme ça aujourd'hui en 2024. On dit spoil à l'oral.
Ah, je peux te proposer le verbe révéler en bon français peut-être, mais ça sonne pas super. Franchement, ça reflète moins l'idée de spoil d'un film ou d'une série.
Et je crois qu'au Québec, au Canada, dans la partie francophone du Canada, on dit divulgacher. Voilà, pour spoiler. Bref, revenons à nos moutons, Violaine, le film.
Oui, alors, bon, sans trop spoiler ou divulgâcher de choses. En gros, c'est une histoire donc policière. Ça se passe en France, dans les Alpes, dans un tout petit village de France, pas très loin de Grenoble. Et un jour, en fait, on retrouve un homme mort. Et à partir de là, une enquête est ouverte, sa femme est accusée. Et tout au long du film, on va suivre le procès.
D'accord.
J'en dis pas plus. Juste, franchement, petit coup de cœur, petite mention pour l'enfant dans le film et le chien qui est tout simplement incroyable et qui est déjà une star aux États-Unis.
Le chien ?
Ouais, il a pris l'avion en business class pour arriver à Los Angeles pour les Oscars.
Totalement normal, logique. Donc, bah, écoute, merci pour cette petite, ce teasing, pour cette présentation. Et n'en dis pas plus, comme ça, on va pouvoir tous aller le voir. Et moi, le premier, je me dis que j'aurais dû le regarder avant cet épisode, mais tant pis, c'est comme ça, écoute. Et concernant les 2h30 de film, ça va ? Pas trop dur ?
C'est faisable. En vrai, je pense que tu devrais en être capable. Et je t'assure, encore une fois, on ne voit pas le temps passer. Je ne suis pas une experte niveau ciné. J'aime beaucoup ça. Mais franchement, à mon avis, on peut dire que Anatomie d'une chute est un très grand film.
Ok. Eh ben, écoute, tu m'as convaincu. Je file tout de suite voir s'il passe encore au ciné.
Ça marche. Eh ben, nous, on va vous laisser, alors. Et on se dit à plus tard. Ciao.